Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 8h à Washington, 14h à Valence en Espagne.
Anne Contner.
Dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain, comme tous les jours, avec les États-Unis à la une et des déplacements dans des États clés de l'Ouest pour les deux candidats, alors que le climat est de plus en plus tendu. Donald Trump entretient la méfiance sur les résultats à venir et certaines manœuvres de redécoupage électoral n'arrangent pas les choses. On le verra dans quelques minutes. Nous appellerons aussi notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour parler entre autres de cette nouvelle polémique qui vient souligner l'absence quasi totale de communication entre le Premier ministre et le Conseil présidentiel de transition. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, les opérateurs miniers de Guyane sont excédés par les lenteurs administratives.
Nous entendrons tout à l'heure l'un de ces chercheurs d'or déplorer la multiplication des contrôles sur ces chantiers, 4 ou 5, dit-il, depuis le début de l'année.
Voilà pour le programme de cette demi-heure américaine et tout de suite, c'est le journal.
RFI Midi.
Avec l'Espagne à la une, bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le risque est encore présent après les terribles inondations qui ont touché le sud-est du pays.
En déplacement dans la région sinistrée, le chef de l'exécutif, Pedro Sanchez, a appelé les habitants de la région de Valence à rester chez eux. L'épisode météo à l'origine de ces inondations n'est pas fini. La population doit rester vigilante, éviter les déplacements, alors que l'Espagne est toujours en état de sidération. Dans la région de Castellón, au nord de Valence, l'alerte est maximale. Les autorités demandent aux habitants de rester dans les zones de haute altitude en prévision de nouvelles pluies. Le bilan de 95 morts pourrait encore s'alourdir. La presse évoque des dizaines de personnes toujours portées disparues. L'Andalousie et la Castille ont été touchées, mais c'est donc surtout la région de Valence qui a été dévastée. Écoutez le témoignage d'Edgar Colomer. Il est prof de sport dans un lycée près de Valence. Il est inquiet pour ses élèves et ses collègues.
Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'aider un petit peu, même à Madrid et à Barcelone, ils ont essayé de ramener beaucoup de choses jusqu'à ici. Mais oui, après, on ne sait pas si ils vont pouvoir ramener tout. Pour accéder ici à Valence, c'est un petit peu tout fermé. Dans les lycées, c'est complètement dévasté là-bas et on ne peut pas y aller. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils sont tout fermés jusqu'à lundi parce que ce n'est pas accessible là-bas. Donc, et après, à niveau de personnes, comme vous savez, il y a beaucoup de personnes disparues. Il y a des collègues, il y a de la famille qui sont disparus. Et après, il y a des élèves aussi qui, bien sûr, il va y avoir de la famille. On verra tout ça lundi. Moi, ici, nous sommes un petit peu nerveux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer, parce qu'on croit que ça va être long pour retourner à la normalité.
Edgar Colomer dans la région de Valence, interrogé par Nicolas Roca.
En Asie, c'est un puissant typhon qui s'est abattu sur Taïwan.
Il a touché terre à la mi-journée. Difficile encore d'évaluer les dégâts. Le typhon est décrit comme l'un des plus puissants de ces dernières années. Les habitants sont confinés. La correspondance de Jules Bois.
C'est un typhon qui a surpris tout le monde à Taïwan. Depuis plusieurs jours, les conditions météorologiques étaient surveillées de près, mais ça ne devait être qu'un simple orage tropical avec beaucoup de pluie. Le voilà transformé en un immense typhon qui recouvre toute l'île avec des rafales à plus de 226 km/h, le deuxième ce mois-ci après le passage du typhon Kraton début octobre. La majorité de la population est confinée depuis ce matin, plus de 9000 personnes ont été évacuées et la plupart des vols aériens du trafic ferroviaire sont à l'arrêt. La côte est la moins peuplée est aussi la plus impactée, là où le typhon a touché terre en milieu de journée. Sur toute l'île, ce sont près de 100 000 foyers actuellement privés d'électricité. Le président Lai Ching-te a affirmé que les autorités étaient préparées à intervenir pour aider la population et a exhorté les Taïwanais à rester chez eux. Depuis ce matin, le typhon a fait un mort et plus de 70 blessés. D'après les estimations, le calme devrait revenir d'ici à vendredi. Jules Bois, Taipei, RFI.
Au Proche-Orient maintenant, alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, au moins 30 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne dans le nord et au Liban, notamment dans la région de Tyr. La perspective d'une trêve est évoquée. Une délégation américaine rencontre aujourd'hui des responsables en Israël pour tenter de parvenir à une pause des combats. Côté libanais, le Premier ministre dit espérer qu'un cessez-le-feu soit possible avant la présidentielle américaine. Aux États-Unis, à J-5 de la présidentielle, signe de la tension qui règne, les centres électoraux des comtés les plus disputés se sont transformés en forteresses avec clôtures en fer forgé et portiques détecteurs de métaux. Kamala Harris et Donald Trump, eux, font cap à l'ouest aujourd'hui. La candidate démocrate tiendra notamment un meeting dans le Nevada, à Las Vegas, et compte sur des stars comme Jennifer Lopez pour mobiliser l'électorat hispanique. Côté républicain, Donald Trump se rendra en Arizona, état frontalier du Mexique, pour une nouvelle fois marteler son message offensif sur l'immigration.
En Bolivie, sans décréter l'état d'urgence, le président exige la levée des blocages.
Depuis 18 jours maintenant, les partisans de l'ancien président Evo Morales bloquent les routes. L'essence manque, les produits alimentaires flambent. Les partisans de l'ancien président sont mobilisés pour dénoncer l'enquête qui touche Evo Morales. Il est accusé du viol d'une adolescente alors qu'il était à la tête du pays. Une persécution judiciaire, disent ses défenseurs, pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle l'an prochain. Michael Ponge.
Pas de dialogue sans levée préalable de tous les points de blocage qu'il qualifie d'antidémocratiques et criminels. 24 barrages au total signalés mercredi qui n'ont qu'un seul objectif, selon Luis Arce. Imposer la candidature d'Evo Morales à la tête du parti, le MAS, pour la présidentielle de l'an prochain. Dans son message à la nation, Luis Arce dénonce l'étranglement de la Bolivie par son rival et ses partisans.
En estos 17 días de bloqueo, se tiene una afectación de más de 1700 millones de
dólares. Pénurie de carburant, envolée des prix, l'impact économique des blocages est estimé à plus d'un milliard 700 millions de dollars, selon Luis Arce, le chef de l'État qui menace, à mots à peine couverts, d'user de tous les recours possibles pour venir à bout de cette situation, sans évoquer pour autant l'armée.
Los intereses de una persona,
les intérêts d'une personne ne seront jamais supérieurs au bien commun, conclut Luis Arce.
Au sud de la Bolivie, en Argentine, la capitale a tourné au ralenti hier.
Une grève massive a touché tous les transports. Plus de bus, plus de métro, plus de trains ni d'avions. Les syndicats dénonçaient une nouvelle fois la politique d'austérité de Javier Milei, ses coupes claires dans les services publics et ses velléités de privatisation. À Buenos Aires, le reportage de Théo Conscience.
On pouvait presque entendre les mouches voler dans l'aéroport Jorge Newbery à Buenos Aires hier. Les avions, eux, sont restés cloués au sol et sur chaque ligne des panneaux d'affichage, un voyant rouge synonyme de vol annulé.
Nous avons été prévenus hier que notre vol était annulé, mais nous sommes venus pour pouvoir le changer. On part demain à l'aube.
Pablo et Yulen, deux touristes espagnols, sont quasiment les seuls voyageurs dans l'aéroport. En tout, la grève a affecté 263 vols et quelques 27 000 passagers.
No salen los aviones de ninguna empresa.
Aucune compagnie aérienne ne peut faire décoller ses avions, se félicite Luciano. Il est délégué syndical chez Aerolíneas Argentinas, la compagnie aérienne nationale que Javier Milei souhaite privatiser.
Les travailleurs se sont appropriés les revendications pour faire de cette journée une grève retentissante.
Revalorisation salariale, rejet des privatisations et de la politique d'austérité du gouvernement, ces revendications sont aussi partagées par les syndicats des transports routiers, fluviales et ferroviaires qui étaient tous en grève hier. La réponse du gouvernement a été diffusée par haut-parleur dans les gares comme dans celle de Constitución à Buenos Aires. Les syndicalistes ne te laissent pas aller travailler pour protéger leurs privilèges, dit le message. La veille, il avait également été envoyé sur les téléphones portables des Argentins via une application dédiée aux démarches administratives. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Enfin, un mot de Géorgie où le recomptage n'a pas changé la donne. Selon la commission électorale, la victoire du parti au pouvoir pro-russe est confirmée. Après avoir recompté les bulletins dans 14% des bureaux de vote, l'opposition dénonce un scrutin volé. Voilà, c'est la fin de cette édition, Anne.
Merci Karine Bellicha. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un nouveau journal. Et tout de suite, c'est la dernière partie d'RFI Midi. Nous partons pour les États-Unis.
USA 2024.
America great again.
Anne Contner. Les deux candidats à la présidentielle sont en campagne dans l'Ouest. Aujourd'hui, derniers efforts pour convaincre dans les États pivots. Donald Trump en Arizona et dans le Nevada pour un déplacement consacré à son thème favori, l'immigration. avec une escale en terrain a priori démocrate au Nouveau-Mexique. Et Kamala Harris, elle aussi, sera en Arizona. Elle s'affichera aux côtés de la star Jennifer Lopez et d'un groupe très populaire auprès de la diaspora mexicaine pour prendre le contre-pied des déclarations incendiaires de Donald Trump. Il reste 5 jours pour convaincre. On en parle un peu moins, mais mardi prochain, les Américains choisiront aussi leurs représentants, l'équivalent des députés. Là, il s'agit d'un suffrage direct, un électeur, un vote. Sauf que le découpage des circonscriptions peut avoir une influence importante sur les résultats et sur la manière dont ces circonscriptions dont ces circonscriptions sont établies peut favoriser en fait l'un ou l'autre parti politique. Alors certains tentent de modifier les cartes électorales. On appelle ça le gerrymandering et la Caroline du Nord est l'un des États qui le pratique le plus. Résultat, des circonscriptions pensées par le Parti républicain pour les élections parlementaires fédérales, pour les élections locales aussi, et ça a plusieurs conséquences. D'abord, de compliquer la vie des élus, et puis ces redécoupages à répétition ont aussi pour effet de saper la confiance des électeurs dans les institutions. C'est notre dossier du jour, il est signé Édouard Maille.
Une douzaine de démocrates sont réunis avant d'aller tracter. Parmi eux, Julie Vonnafen, candidate à sa réélection à l'Assemblée législative de Caroline du Nord. Sa circonscription dans la banlieue de Riley, la capitale de l'État, est plutôt démocrate, même si elle a été touchée par le redécoupage électoral opéré par ses adversaires républicains.
Ce sont vraiment les députés de l'État qui choisissent leurs électeurs, plutôt que l'inverse. Normalement, c'est nous qui choisissons nos districts, traçons les lignes. Quand je dis « on », je ne veux pas dire « moi », car je ne suis pas dans le parti majoritaire, mais les députés se mettent à la table et disent « regardez ces lignes, si je les trace comme ça, j'aurai une majorité d'électeurs de mon propre parti ». Mais ça ne devrait pas fonctionner ainsi. C'est la quatrième fois que je me présente et à chaque fois que ma circonscription était différente, ça avait des conséquences sur ma capacité à représenter ma région. Pour mes électeurs, il est plus difficile de comprendre pour qui ils doivent voter. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je parle à des électeurs et ils ne savent pas qui les représente ou qui est le candidat à la prochaine élection, car ces découpages ont tellement changé.
Bien sûr, les démocrates se sont opposés à ces nouvelles cartes avec de nombreuses procédures en justice. Mais ce sont des juges républicains qui ont fini par valider ces découpages électoraux. Par conséquent, à la Chambre des représentants à Washington, il faudra s'attendre à d'importants changements en novembre, comme l'explique le chercheur en sciences politiques à l'université de Catawba en Caroline du Nord, Michael Bitzer.
On va sûrement passer de la situation actuelle, qui est de 7 représentants républicains et 7 démocrates, à au moins 10 républicains et 3 démocrates. Et une seule circonscription est incertaine, car les électeurs sont vraiment à 50-50.
Face à ces nouvelles cartes, 3 représentants démocrates ont même annoncé qu'ils ne se représenteraient pas, car aucune chance d'être élus. Le chercheur Michael Bitzer rappelle que la pratique du gerrymandering n'est pas nouvelle, elle a toujours existé chez les républicains comme chez les démocrates. Mais actuellement, la situation géographique et démographique en Caroline du Nord rend particulièrement facile cette pratique.
The way that North Carolinians...
Les habitants et électeurs en Caroline du Nord se sont regroupés dans des zones avec d'autres groupes qui ont les mêmes idées. Et ça rend plus facile la tâche de faire des circonscriptions où votre parti est majoritaire. Aussi, les habitants ici sont devenus très fidèles à leur parti, ce qui les rend prévisibles. Les démocrates en Caroline du Nord ont tendance à vivre dans les grandes villes, à Charlotte, à Raleigh, à Greensboro. Les républicains sont plus dispersés à travers l'État et les républicains dans l'Assemblée législative ont créé des circonscriptions dominées par les démocrates à Charlotte, à Raleigh, à Durham. Ils ont concentré tous les électeurs démocrates dans des grandes villes, dans des districts. Et toutes les autres régions sont ainsi très républicaines. Et ça a tendance à aider les républicains à gagner dans ces régions. Ça ne demande pas beaucoup d'imagination pour obtenir d'un État majoritairement démocrate ou républicain alors qu'il est à 50-50.
La Caroline du Nord est particulièrement touchée par cette pratique. Depuis les années 80, l'État n'a jamais tenu 10 ans avec les mêmes découpages électoraux. Édouard Maille, en Caroline du Nord, RFI.
Ces redécoupages, on le disait, affectent la confiance des électeurs, d'autant plus que Donald Trump souffle sur les braises avec un discours complotiste. Il évoque de plus en plus souvent d'éventuelles tricheries et manipulations, notamment en Pennsylvanie, qui est l'un des États où l'élection s'annonce la plus disputée et la plus incertaine. C'est là que se trouvait hier soir la candidate démocrate pour un meeting mouvementé à Harrisburg. Kamala Harris a été interrompue à plusieurs reprises par des militants pro-palestiniens. Des militants ont crié « Arrêtez le génocide » en brandissant des pancartes et des drapeaux palestiniens. Ces manifestants demandaient la fin des livraisons d'armes à Israël. Interruption répétée, ce qui a poussé Kamala Harris à répondre « Mais laissez-moi finir », tout en assurant que les militants avaient le droit de parler. Ils ont tout de même été escortés vers la sortie par les organisateurs du meeting. La situation au Proche-Orient qui pourrait coûter des voix aux démocrates. Alors, dans un scrutin extrêmement serré, tous les soutiens sont bons à prendre. On a parlé tout à l'heure de chanteurs comme Jennifer Lopez. Et comme à chaque élection, des sportifs aussi prennent position, notamment les basketteurs Cédric de Oliveira.
What's up everybody? Stephen Curry here.
Stephen Curry n'est pas qu'un basketteur de génie. À 36 ans, il est aussi un leader respecté et écouté. Et les démocrates l'ont bien compris en diffusant un de ses messages de soutien à Kamala Harris lors de leur convention en août dernier.
Je pense que Kamala, en tant que présidente, pourrait ramener l'unité et continuer à faire avancer notre pays. Il s'agit de préserver l'espoir et la foi en notre pays.
Curry s'était déjà engagé dès juillet lors des JO à Paris, tout comme son entraîneur en club et en sélection Steve Kerr. Quant à l'autre icône de la NBA, LeBron James, il se concentre plutôt sur ses attaques à Donald Trump, qu'il a déjà qualifié publiquement de voyou. De manière générale, la Ligue est plutôt hostile aux candidats républicains, à l'image de l'entraîneur de Victor Wembanyama au San Antonio Spurs, Greg Popovich, particulièrement virulent il y a quelques jours.
C'est le plus grand pleurnicheur qui ait jamais marché sur la surface de la Terre. Il est l'exemple parfait de la brute qu'on a connue à l'école primaire. C'est un individu pathétique, un tout petit homme qui doit rabaisser les gens autour de lui pour penser qu'il est le plus important.
Pour se trouver des soutiens chez les sportifs, Trump pourra compter sur le monde du MMA, très populaire chez le public masculin. D'anciennes gloires comme le boxeur Mike Tyson ou le golfeur Tiger Woods se sont aussi prononcés en faveur du républicain.
RFI Midi.
On l'a beaucoup dit ici, l'élection américaine s'annonce extrêmement serrée, le climat politique est ultra tendu. Et dans ce contexte, Elon Musk est convoqué par un juge de Philadelphie aujourd'hui dans le cadre d'un procès pour empêcher une loterie pilotée par le milliardaire via un comité d'action politique. Ce très proche de Donald Trump a promis 1 million de dollars aux électeurs inscrits dans les états-clés avant le 5 novembre. Et pour le bureau du procureur, c'est tout simplement illégal. Il critique cette incitation à faire partager des données personnelles et il a déposé plainte lundi. Une première audience se tient donc tout à l'heure au tribunal de Philadelphie. Et je vous propose maintenant de voir comment cette élection qui approche est suivie en Chine avec notre correspondante à Pékin, Cléa Broadhurst. Le résultat de l'élection pourrait avoir un effet sur le commerce, sur la sécurité, sur la diplomatie notamment. Alors, de quel côté penche la Chine, Cléa ?
Ce n'est pas un secret, les relations sont au plus bas depuis des décennies. L'imposition par Washington de nouveaux droits de douane très élevés sur les voitures électriques, les batteries de ces véhicules et les cellules photovoltaïques chinoises n'arrangent rien. Ni Trump ni Harris ne devraient inverser cette tendance. Parmi les citoyens chinois, certains pensent que Trump pourrait éviter un conflit militaire, un sentiment qui est motivé par la crainte d'une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, en particulier en ce qui concerne Taïwan. D'autres, en revanche, craignent que les politiques de Trump ne ravivent les difficultés économiques s'il impose de nouveaux droits de douane. Sur les réseaux sociaux chinois, fortement censurés, les partisans de Trump dominent. On y admire ses tendances autoritaires et sa rhétorique anti-woke. Et quelque part, le retour de Trump à la Maison-Blanche serait un avantage majeur pour la Chine, car il signifierait des divisions plus profondes au sein de la démocratie américaine.
Et quelles sont les préoccupations chinoises concernant ces élections ?
Alors, les dirigeants chinois privilégient la stabilité pour soutenir la croissance économique et éviter les conflits. Kamala Harris est perçue comme une option plus stable, avec des politiques basées sur la continuité, alors que Trump est vu comme imprévisible, avec des changements potentiels qui pourraient déstabiliser la région. Les restrictions technologiques restent un sujet important. Harris poursuivrait une approche multilatérale pour limiter les avancées technologiques chinoises, alors que Trump pourrait privilégier les droits de douane et des engagements financiers de ses alliés. Taïwan reste néanmoins une préoccupation majeure pour la Chine. Harris reste ferme sur le soutien à Taïwan, ce qui pourrait renforcer les engagements des États-Unis en faveur de la défense de l'île. Et Trump, tout en soutenant Taïwan, a indiqué que l'île devrait, je cite, « payer pour sa protection », ce qui ajoute un élément élément d'imprévisibilité que la Chine juge préoccupant. Et enfin, Pékin redoute les critiques sur les droits de l'homme, particulièrement soutenues par Kamala Harris, qui pourraient accentuer les tensions diplomatiques.
Alors, quels seraient les défis si l'un ou l'autre se retrouvait à la Maison-Blanche ?
On a d'un côté Trump qui privilégie un protectionnisme fort avec des politiques America First qui ont fragilisé les liens économiques et les chaînes d'approvisionnement avec la Chine. En contraste, Kamala Harris poursuivrait les restrictions technologiques et une volonté de découpler certaines chaînes d'approvisionnement pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Et cela pourrait créer des perturbations économiques. Dans l'ensemble, Trump se concentre sur des engagements conditionnels et une politique transactionnelle, tandis que Kamala Harris cherche la stabilité par la coopération avec les alliés, malgré des différences d'intérêts parmi les partenaires internationaux. En résumé, quel que soit le vainqueur des prochaines élections présidentielles américaines, il est peu probable que Pékin trouve à Washington une administration favorable à la Chine.
Cléa Broadhurst, correspondante de RFI à Pékin.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Direction Haïti, maintenant, où nous attend notre confrère Franz Duval. Bonjour.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, vous avez choisi de mettre en une de votre journal un sujet douloureux et délicat en ce mois d'octobre. Octobre rose, c'est le cancer du sein. Le mois qui s'achève est traditionnellement une période de sensibilisation dans plusieurs pays. Mais cette maladie, elle est mal prise en charge en Haïti. D'abord à cause de l'état du système de santé, mais aussi du tabou qui entoure encore la maladie.
Tout à fait, c'est une maladie qu'on soigne pas bien en Haïti, qu'on ne dépiste pas bien en Haïti, mais surtout que l'on ne comprend pas trop bien en Haïti. Il se trouve qu'il n'y a jamais eu de campagne nationale pour sensibiliser à la maladie, pour inviter à faire le dépistage, mais surtout il y a le fait que depuis toujours, les Haïtiens croient que le cancer est synonyme de mort imminente, qu'on ne guérit pas du cancer, que le cancer est aussi une maladie mystique, que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel cette affaire de cancer. D'autant plus que souvent, les manifestations de la maladie ne sont pas visibles extérieurement. Tout se passe à l'intérieur du corps, très souvent. Et très vite, les patients se livrent à des médecins, entre guillemets, qui leur proposent des cocktails de médicaments miracles. Et enfin, le refus de l'ablation quand il s'agit de cancer du sein, chez la femme en particulier. C'est une maladie qui cause beaucoup de dégâts en Haïti, mais on n'a même pas de statistiques fiables pour en parler vraiment.
Le Nouvelliste rapporte également, Franz, sur son site, une nouvelle attaque criminelle dans le département de l'Artibonite.
Tout à fait. Le département de l'Artibonite, c'est le département où se trouve Ponsondé. Mais il faut dire que c'est un département immense, c'est une grande plaine agricole, que les bandits ont l'attitude de frapper à un endroit ou à un autre. Aujourd'hui, la police a essayé de mettre de l'ordre, de sécuriser certaines villes, certains villages, mais les bandits ont mené de nouveaux assauts, particulièrement dans des localités de la commune de Marchand-des-Salines et de Petite-Rivière d'Artibonite. Cela s'est passé le mercredi 30 octobre. Ils ont enlevé une dizaine de personnes et surtout ont enlevé des têtes de bétail. Ils sont partis avec tout ça. Pour le moment, les parents sont en train de négocier pour essayer de retrouver leurs proches.
Alors, le niveau de violence ne cesse d'augmenter. On le voit dans un bilan du Bureau des Nations Unies qui, il faut le préciser, ne prend en compte ni l'attaque extrêmement meurtrière du début du mois dans l'Artibonite, justement, ni celle du quartier de Solino, en banlieue de Port-au-Prince, mais qui indique, ce bilan, que plus de 1200 personnes ont été tuées en 3 mois seulement.
Tout à fait, c'est juillet, août et septembre qui sont concernés. Le mois d'octobre n'est pas pris en compte. Et ce qui s'est passé récemment dans les points les plus chauds n'est pas encore comptabilisé. C'est un bilan macabre. Chaque 3 mois, le BINU donne les chiffres, donne les statistiques. Personne ne peut même pas, on ne peut même pas affirmer que les statistiques sont complètes, car il y a des cas qui sont isolés, des cas qui ne sont pas pris en compte. Mais encore une fois, la tendance se confirme, le nombre de morts violentes en Haïti continue d'augmenter. Cela ne s'arrête pas depuis des années maintenant.
Et puis il y a une horreur supplémentaire, c'est le recours quasi systématique au viol.
Systématique parce que c'est comme un happening quand les gangs déferlent sur une région, ils tuent, ils chassent les gens. Et ils attrapent les jeunes filles, les femmes en général, et en font une proie.
Face à ces gangs, la police haïtienne recevrait le soutien de mercenaires. En tout cas, c'est ce que laissent entendre des journalistes d'étrangers. Le problème, et ça on peut le lire dans votre journal, c'est que le Conseil présidentiel de transition n'était pas au courant.
C'est ce qui est dit, c'est ce qu'on croit comprendre dans une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux. Le Conseil présidentiel a invité le Premier ministre à venir s'expliquer, à venir donner des détails sur cette affaire. Pour le moment, le Premier ministre n'a pas encore répondu au Conseil présidentiel de transition. Il faut dire que le président Voltaire est en voyage. On ne comprend pas trop bien cette affaire. On ne comprend pas non plus trop bien pourquoi cela se règle sur la voie publique et dans les réseaux sociaux.
En fait, selon vous, le Premier ministre et le Conseil présidentiel ne s'accordent que sur une chose, torpiller l'avenir.
C'est le constat navrant que fait le Nouvelliste. C'est le constat que, la CARICOM avait aussi présenté dans une lettre, dans une note aux parties haïtiennes. Ils s'arrangent pour que rien ne se passe bien entre eux. Ils s'arrangent pour que tout soit géré sur la place publique. Et définitivement, ces partenaires politiques des deux branches de l'exécutif ne s'aiment pas, se font la guerre et cela a des conséquences concrètes sur la vie des Haïtiens et surtout sur l'avenir d'Haïti.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On vous retrouve jeudi prochain sur cette antenne. Et d'ici là, on peut vous lire sur le site lenouvelliste.com.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand. Les opérateurs miniers de Guyane sont excédés par les procédures et les lenteurs administratives et ils l'ont fait savoir bruyamment hier à Cayenne.
Ils ont bloqué l'accès au service de la DGCP, qui est, comme tout le monde ne le sait pas forcément, la Direction Générale de la Cohésion et des Populations. L'un de ses chercheurs d'or, Renan Figueiredo, déplore tout particulièrement la multiplication des contrôles administratifs sur ces chantiers. Il l'a dit hier au micro de Thierry Merlin.
Moi, j'ai démarré mon activité au mois de janvier. De mois de janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai été contrôlé, je crois que 4 ou 5 fois. Donc, c'est des journées perdues parce qu'on a un hélico qui se pose avec les contrôleurs, que ce soit l'ONF, la DGTM, la police de l'eau, la JET, etc. Donc, ils se posent sur le chantier. Pendant toute la journée, on justifie les papiers, on présente les contrats de travail et tout ça. Donc, on perd une journée de travail. Et c'est à chaque fois les administrations ont tour de rôle qui nous contrôlent toute l'année. Et donc, on se sent harcelé. Et à côté de soi, on voit les clandestins qui se régalent et puis personne ne les contrôle, personne ne les empêche de travailler. Et nous, on est harcelés administrativement et braqués par des bonnes armées et pillés par les clandestins.
La DGCP a assuré les opérateurs miniers qu'elle allait transmettre leurs revendications à qui de droit, comme on dit. La Martinique maintenant, 2 mois de manifestations, barrages routiers, transports à l'arrêt ou ralentis, émeutes nocturnes, incendies, pillages. Le mouvement de contestation contre la vie chère va peut-être rapporter gros, mais en attendant, il coûte cher, notamment aux entreprises et aux commerçants. Écoutez ce reportage à Fort-de-France, signé Christine Cupit.
Depuis plusieurs mois déjà, l'activité est quasiment au point mort au centre-ville de Fort-de-France, selon cette commerçante en prêt-à-porter.
Ça a été 3 mois très difficiles depuis juillet et depuis septembre, ça se prolonge. Donc c'est sous le chiffre mensuel qu'on se rend compte de la baisse qui est considérable. Et même si je voudrais des fois prendre une aide, c'est pas possible parce que les charges seront là. Il y a des impôts à payer et la trésorerie n'a pas suivi parce qu'on était fermés.
Les barrages et l'absence de transport ont eu des répercussions considérable sur l'activité des commerçants qui subissent aussi les contre-coups de la vie chère.
Tout est cher à la Martinique et nous aussi on subit, les clients nous font des remarques, mais il faut savoir que nous achetons et nous sommes des commerçants, il faut qu'on travaille, on ne peut pas vendre à vil prix et nous on se bat avec nos fournisseurs pour baisser. Et eux, ils ne veulent pas non plus. La marchandise est très chère. Même la marchandise produite à la Martinique est chère. Même plus chère que la marchandise venue d'ailleurs. Et ça, il y a un gros problème. Il va falloir que tout le monde puisse s'aligner pour que tout le monde trouve son compte.
Un reportage de Christine Cupit à Fort-de-France. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter. Le rappeur et DJ jamaïcain Skilly Bang. Voici le titre Boom.
Yes, it's just boom, to doom, doom, 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 boom, to doom, doom. Why fling the pussy by me? Yes, it's just boom, to doom, doom, 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 boom, to doom, doom. Why fling the pussy by me? If she never have a man, she give me faster. Would I give me one son? Or give me one daughter and a drama? Says she woulda ride me like a yama and a laughter. Says she want a fuck hotter than a sauna. With
your rubber dub. Anyway, you ride, I ain't a water. Me will cock you up. Fuck your pamba and it no matter. Baby girl, you act, you call your papa. Want to blow you like a farmer with a fucking and a carrier. Boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum, boom, do dum dum. Yes, she just waffling the pussy for me. Yes, she just.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission était réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et tout de suite, de vive voix avec Nathalie Amar. Très bonne journée à tous.
Dum dum boom dum 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 boom dum 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 boom dum 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 boom dum dum dum. Yes, she just waving the pussy for me. Yes, she just.